Oui, bon, déjà, je prends le contre-pied parce que c'est pas vrai. Si on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé en termes de fiction entre le 19e et le 20e siècle, mais on pourrait remonter évidemment à plus loin, on se rend compte que les nouvelles formes de fiction, le cinéma en son temps, la bande dessinée en son temps, le jeu vidéo aujourd'hui et les différentes nouvelles formes du jeu vidéo, ont toujours été qualifiées de fuite dans l'imaginaire, de fuite du réel, de dépendance, etc. Comme si, lorsqu'une nouvelle forme de fiction apparaissait, on la voyait d'abord comme un danger, comme une sous-culture par rapport à une culture instituée. Donc l'idée, c'était plutôt, en tout cas dans mon travail à moi, c'est plutôt de réfléchir non pas tant par rapport à ces espèces de poncifs de qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo, etc., mais de voir ce qu'ils inaugurent, ce qu'ils instituent, comment ils travaillent le monde, comment ils sont reçus par les joueurs, comment est-ce qu'ils proposent des nouvelles manières de rendre compte de l'existence humaine ou de la société dans laquelle on vit, etc. J'ai l'impression que dès qu'on parle de cette fuite du réel, c'est comme si on pouvait plus rien dire. C'est comme si c'était tellement fort qu'on est en train directement de devoir parler d'addiction et de problématiques liées aux jeux vidéo. Sauf que le jeu vidéo, c'est de loin pas ça. C'est une industrie gigantesque et on peut pas dire que le jeu vidéo conduit à une fuite du monde réel. C'est même en général pas le cas. Et quand c'est le cas, c'est pour un type de joueur qui, sans les jeux vidéo, aurait fui le monde réel. Par exemple, dans une des plus grandes addictions mondiales, qu'est l'alcool.
La bande dessinée, je crois que c'est le 9e art. Dans quelques années, ça sera courant de parler des jeux vidéo comme du 10e art.
Oui, il y a de fortes chances que ça soit courant. Dans le sens où finalement, l'art, c'est quoi? C'est une utilisation spécifique d'un langage. Et ce langage, il peut être iconique pour la peinture, il peut être textuel pour la littérature, il peut être hybride pour la bande dessinée. Et évidemment, le jeu vidéo a aussi, lui, un traitement spécifique du langage, mais qui est le langage informatique, donc le langage numérique. Donc, autrement dit, il y a de fortes chances qu'un jour, et c'est déjà en train d'arriver, hein, le traitement spécifique ou la langue, en guillemets, particulière qu'on va pouvoir créer avec le langage numérique va permettre d'avoir des jeux vidéo spécifiques, d'avoir des jeux vidéo artistiques. On a un développement depuis quelques années de ce qu'on appelle le jeu indépendant, sur des créateurs qui ne sont pas liés à des circuits économiques qui doivent d'abord être rentables, qui eux vont chercher des nouvelles expériences de jeu pour le joueur, de perturber un petit peu les habitudes d'un joueur, et qui vont en fait finalement avoir pour fonction de provoquer les émotions du joueur qui attend quelque chose mais qui n'aura pas cette chose-là. Et ce faisant, on est assez proche de ce qui s'est passé dans l'art classique. Un bon roman, c'est aussi un roman qui va provoquer le lecteur, un bon film qui va provoquer le spectateur. Et on va donc trouver, donc d'être provocateur par rapport au jeu vidéo, c'est aussi de montrer comment ce jeu vidéo-là, il peut amener un certain type d'émotion, un certain type de raisonnement, de réflexion très proche d'autres formes artistiques. Donc je vois pourquoi le jeu vidéo devrait échapper à la catégorisation artistique, peut-être seulement parce qu'on a l'impression que tout ce qui passe par la technologie et les machines n'est pas du domaine artistique. On oublie que les pigments dans la peinture classique ont été quand même sont liés à tout un mode de fabrication technologique qu'on ne met pas en avant, mais qui aurait fait que sans ce mode de fabrication, on n'aurait pas pu avoir ce type de pigments-là.
Vous faites un parallèle, vous avez fait un parallèle tout à l'heure avec les films. Alors justement, les jeux vidéo deviennent des films, les films inspirent les jeux vidéo. Il y a des liens entre ces deux mondes, des liens entre l'art et les jeux vidéo. Il y en a aussi donc.
Ah oui, bon, bah déjà, le jeu vidéo, c'est fait par des créateurs qui vivent dans un monde. Idem, les films sont faits par des créateurs qui vivent dans un monde, et dans ce monde, il y a plein de choses différentes. Donc autant là, le cinéma, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui évidemment, à tisser des liens assez solides avec la littérature. On a beaucoup de films qui sont adaptés d'un roman. Il a aussi créé passablement de liens avec la bande dessinée. On avait déjà ça chez René, ou par exemple dans les comics américains qui sont adaptés en films de super-héros. Alors esthétiquement, c'est un peu plus pauvre. Il n'y a pas de raison que le jeu vidéo puisse ne pas être une source d'adaptabilité, disons, pour les créateurs. On a eu ça effectivement avec Warcraft, on a eu ça avec Assassin's Creed. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo? C'est une expérience donnée à un joueur d'un scénario dans lequel il peut interagir un peu plus librement que dans un scénario filmique. Donc finalement, vous n'avez aucun problème d'adapter ça en film. La question, c'est est-ce que c'est intéressant de voir Assassin's Creed dans le sens où vous pouvez. La grande force du jeu, c'est que vous puissiez agir dans le jeu. Face à un film, vous ne pouvez pas agir dans le film. Donc quelle est la nature du médium? Qu'est-ce qu'on va proposer quand on adapte un jeu vidéo au film? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée, qui est intéressante. Et puis qui montre aussi cette espèce de perméabilité entre les médiums, où finalement un créateur qui a adoré Assassin's Creed, il peut vouloir en faire un film, il peut vouloir explorer cet univers sur un médium différent.
Alors justement, finalement, le jeu vidéo, est-ce que, Marc Attala, selon vous, ça ne serait pas la forme d'expression la plus complète, puisqu'on va créer un univers dans son intégralité, autant au niveau d'une histoire que d'une esthétique, ou vraiment un monde dans lequel le joueur va se plonger?
Non, je pense qu'il faut... comment dire? J'ai toujours de la peine avec cette espèce de fiction intégrale. Déjà, le problème du jeu vidéo, c'est que... si vous voulez, il est quand même un médium où on a l'impression d'être libre. Mais néanmoins, nos mouvements, nos actions sont quand même passablement conditionnés par les designers, enfin les game designers. Vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voulez. Mais vous avez l'impression de pouvoir activer l'univers et donc d'être plus libre. Il s'avère qu'à mon sens, chaque fiction possède des avantages assez fort. La littérature possède un certain nombre d'avantages. Vous voyez, la littérature est un médium très pauvre. Vous avez des mots écrits sur une page blanche, mais regardez ce qu'elle est capable de produire en termes d'imaginaire, en termes d'émotion, en termes de développement sur plusieurs ouvrages ou plusieurs tomes, etc. Donc, si vous voulez, pour moi, la fiction a toujours la faculté d'immerger le lecteur, spectateur, joueur. Mais dans le jeu vidéo, ce qui va faire quand même avoir une petite différence, c'est le fait de l'interface. Vous voyez, quand vous regardez un film, par exemple au cinéma, tout est fait pour que vous ne voyez que le film. Tout est noir autour de vous, et il faut que les gens se taisent. Donc on va essayer de faciliter et d'augmenter l'effet d'immersion. Dans le jeu vidéo, et en particulier avec les nouvelles technologies, vous tenez une manette ou un contrôleur. Vous pouvez commencer maintenant à utiliser les lunettes VR qui vont vous immerger encore plus dans le jeu. On est toujours dans cette idée de maximisation de l'immersion par des interfaces technologiques. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être plus immergé dans le jeu vidéo que dans la littérature, qui a pourtant une interface très très pauvre. Je pense qu'on ne peut pas tellement faire de gradient entre les différents modes fictionnels. On est plus sur des expériences émotionnelles spécifiques qui vont faire que dans un livre qui est très court, même un pavé de 700 pages, vous voyez, il vous faut beaucoup moins de temps pour le lire que de finir GTA V, par exemple. Ouais, peut-être aussi. Oui, je veux dire, c'est qu'on a tendance un peu à qualifier le jeu vidéo avec des superlatifs. C'est plus immersif, mais c'est pas vrai. Au XVIIIe siècle, quand on lit un livre, les gens pleurent sans fin, etc. C'est qu'on a aussi, nous, un monde de l'image et qu'on est peut-être un peu moins sensible à cette émotion produite par le texte littéraire, frappé des siècles et des siècles de lecteurs. Aujourd'hui, c'est juste dans le jeu vidéo, vous avez une interface, l'écran, vous avez une deuxième interface, le contrôleur, vous êtes plongé dans un monde qui vous absorbe avec des écrans de plus en plus grands, voire même des lunettes VR qui vous empêchent d'avoir un contact avec le monde réel. Et donc, si vous voulez, c'est pas que le jeu vidéo vous immerge plus, c'est que la technologie avec laquelle vous allez jouer va vous couper un peu plus du monde réel, du moins pendant le temps de l'immersion. Mais quand vous avez une lunette VR sur le visage, vous vous rendez quand même bien compte que vous avez une interface sur la tête, et dès que vous voulez faire n'importe quoi, vous allez lever vos lunettes VR pour pouvoir retrouver ceci, retrouver votre verre d'eau ou que sais-je. Donc vous n'êtes pas coupé du monde réel, vous avez l'impression de l'être, mais vous avez très vite fait de replonger dedans.
Alors, on a parlé de cette nouvelle forme d'art, Marc Attala. Pour les joueurs aussi, ils ont l'impression de participer à un mouvement artistique quand ils jouent.
Ça c'est difficile à dire déjà, parce que les joueurs, vous voyez, ça représente des milliards de personnes. Ce qui est sûr, c'est que le problème qu'on a avec cette question, c'est aussi une des choses que je vais discuter demain soir, c'est qu'on fait tout un espèce de cirque sur la question de l'art. Le problème, c'est que personne n'est capable de définir l'art. C'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce que c'est un mouvement institutionnel? Est-ce que c'est un mouvement esthétique? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se percevoir de manière objective, ou est-ce que c'est subjectif? Bref, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que le joueur de jeu vidéo, quand il est immergé dans le jeu, lui, ce qu'il voit surtout, c'est ce qu'on appelle le gameplay. C'est ce qu'il va expérimenter. C'est-à-dire la mécanique du jeu. C'est ce qu'il va devoir faire, en fait. Et c'est ça qui va lui procurer de l'émotion. Alors cette émotion peut être relativement stéréotypée, tuer des ennemis, elle peut être très intellectuelle dans les jeux de stratégie. Bref, vous voyez, plusieurs types d'émotions qui sont possibles. La question de l'art, elle est forcément liée à une distanciation. Quand vous regardez un tableau de Picasso. Si vous ne savez pas qui est Picasso, vous êtes d'abord dans un rapport beaucoup plus immédiat d'émotion. Quand vous posez la question de savoir si Picasso est un artiste, vous êtes déjà dans quelque chose de réflexif. Donc le joueur de jeux vidéo n'a pas l'impression de participer à un art, mais à une culture qui fait partie de sa culture, comme quand vous lisez un roman, vous participez d'une culture qui est la culture littéraire, et vous avez un de ses membres dans les mains. La question de l'art, elle se pose toujours en termes de méta, c'est-à-dire ceux qui vont commencer à réfléchir aux innovations formelles, structurelles ou esthétiques dans le jeu vidéo, et qui vont dire, voilà, ben, y a plein de jeux un peu plan-plan, premier degré, type Mario, par exemple. Et puis, il y a des jeux qui vont jouer avec ces jeux plan-plan, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont court-circuiter l'expérience habituelle. Quand vous court-circuitez l'expérience habituelle, ben, le joueur va avoir l'impression de jouer à un Mario-like, et puis d'un coup, il va se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Ça va produire une sorte de bug, comme ça, si vous voulez. Et ce bug va peut-être lui amener lui poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ce qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est un petit peu la question artistique. Hein, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Est-ce que je suis en train de regarder un portrait ou quelque chose d'autre? Est-ce que je suis en train de regarder une sculpture ou quelque chose d'autre? Donc, si vous voulez, le joueur, il n'a pas l'impression qu'il participe à un art. C'est que les intellectuels qui se posent la question de savoir si c'est artistique. Et, accessoirement, le monde économique, puisque quand c'est artistique, ça peut être vendu plus cher que quand ça ne l'est pas. Donc, vous voyez, un joueur de jeux vidéo, il ne réfléchit pas à ça. Par contre, les critiques de jeux vidéo peuvent commencer, et ça, c'est un travail qui est en train de se faire de plus en plus, et c'est intéressant, peuvent en train de pouvoir identifier dans une culture gigantesque en termes de nombre de titres, identifier des choses qui sont plutôt originales, plutôt un traitement spécifique, plutôt artistique, et puis des choses qui seraient plutôt, comme on l'appelle souvent, populaires.
Vous en avez un petit peu parlé de Super Mario. Je ne sais pas si ça peut répondre à ma question, mais il y a cette forme de jeu vidéo très performant, avec plein de détails et tout, puis il y a la tendance du rétro gaming.
Oui.
C'est des gens n'ont pas envie de tomber dans ces jeux vidéo extra bien faits.
Vous êtes génial parce que vous me posez toutes les questions que j'aime pas trop. Mais j'aime bien. Le rétro gaming, qui est un phénomène assez récent, fait que j'ai envie de vous poser une question toute simple, puis vos auditeurs comprendront bien. Est-ce que ça vous arrive de lire Tintin?
Oui.
Est-ce que vous faites de la rétro BD?
Ah non.
Ouais, pourtant, c'est exactement ce que vous me dites par rapport aux jeux vidéo. Si vous lisez Tintin, qui a été écrit dans la première moitié du XXe siècle, parce que vous trouvez chouette cette BD, parce que ça vous procure des émotions, est-ce que vous êtes nostalgique, régressive, est-ce que vous faites de la rétro-BD? Non. Alors pourquoi est-ce que quand on joue à Mario, qui est un classique du jeu vidéo, on a l'impression que c'est régressif, nostalgique, et qu'on veut pas avancer? C'est le grand problème qu'on a avec le jeu vidéo, c'est que c'est comme si on voulait pas le voir comme une forme fictionnelle comme une autre. C'est comme si on voulait lui donner un statut à part qu'il a pourtant pas. Quand vous faites du rétro gaming, ça peut être par nostalgie, comme certains lecteurs de Tintin peuvent le faire par nostalgie, mais ça peut être aussi parce que Tintin est un classique qu'il faut avoir lu, tout comme Mario est un classique auquel il faut avoir joué. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup aujourd'hui aussi par rapport au dialogue qu'on peut avoir avec les adolescents, avec les jeunes joueurs, sur le fait de considérer le jeu vidéo comme on considère la littérature, le cinéma ou la bande dessinée. Quand je prends le passé, je cherche pas à plonger dans un monde qui n'est plus puis d'éprouver des émotions nostalgiques, mais je peux tout à fait chercher à éprouver quelque chose qui est en lien avec un classique, parce que la définition du classique, la BD, de la littérature ou du cinéma, c'est d'être un peu intemporel. C'est-à-dire, en fait, quel que soit le moment où vous regardez Kubrick, ça vous procure des émotions. Ben, j'ai envie de dire, quel que soit le moment où à quelques moments que ce soit, vous jouez à Mario, ben, vous allez trouver de l'émotion. C'est parce que c'est un classique. Personne ne rejoue à E.T., par exemple, sur Game Boy ou des choses comme ça, qui était un jeu pourri. Alors, on joue à Mario, on joue à Zelda, on joue à ce genre, à Space Invaders. Ce genre de jeux semble être intemporel. Ils sont des classiques. Donc, pour moi, le rétro gaming, c'est ça.
Merci beaucoup. La discussion, elle se poursuit demain soir au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, avec, je l'espère, plein d'autres questions gênantes auxquelles vous ferez un plaisir de répondre. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée.
Merci à vous. Bonne journée.
À bientôt.